Alors, il faut que je vous le dise, si je ne vous l'ai jamais dit, la lecture du livre, l'extrait que nous avons entendu ce matin en première lecture tiré du livre d'Esther, sachez que c'est la seule occasion dans toute l'année liturgique, peu importe les jours sur semaine ou les dimanches confondus, où on entend un extrait de ce livre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, probablement pas, et je ne vous fais aucun reproche si vous ne l'avez pas remarqué, c'est la citation qui est faite du livre au tout début de la lecture, dans le Prions en Église. Si vous avez le Prions en Église, c'est marqué « Lecture du livre d'Esther 4 ». Puis là, il y a 17 N, P, R, des petits points. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est extrêmement intéressant parce que on se rend compte que, quand on regarde ce livre-là, qu'il y a deux versions au livre. Il y a une version hébraïque et une version grecque. Les deux, évidemment, ont été traduites en français. On peut les trouver dans les Bibles. Mais les deux sont complémentaires, mais ne disent pas nécessairement la même chose. Et on va le voir dans quelques instants, mais il faut savoir que le livre d'Esther est un livre qui mérite d'être lu du début à la fin, si ce n'était pour le fait que c'est un livre extrêmement divertissant. Il y a quelques mois seulement, j'ai eu l'occasion de regarder un film qui a été produit à partir du livre d'Esther et c'est absolument passionnant. D'ailleurs, tous les observateurs le disent, vous-même vous l'avez remarqué si vous l'avez déjà lu, les personnages sont bien définis, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des retournements de situation imprévus, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais il y a trois raisons pour lesquelles ce livre-là mérite d'être souligné au point de vue spirituel et religieux. La première, c'est de voir que le rôle principal de ce livre échoit à une femme juive, ce qui en soi, dans une société patriarcale, toute concentrée autour des personnages masculins, est particulièrement digne de mention. On a ici une femme juive qui devient l'instrument de Dieu pour la libération de son peuple, de la même manière que Joseph l'a été pour le peuple d'Israël et Moïse aussi l'ont été. Donc c'est vraiment, ça mérite d'être souligné ce seul fait-là. La deuxième chose, c'est que Mardochée et sa fille Esther, donc rapidement en deux mots l'histoire, c'est que ce sont des Juifs en territoire païen et il y a un roi en Perse qui a un mauvais conseiller qui décide d'introduire une législation contre le peuple juif. Et il se trouve que Esther, la fille de Mardochée, va devenir l'épouse du roi de Perse. Et là, Mardochée va insister auprès d'Esther pour qu'elle fasse appel auprès du roi pour renoncer à cette décision-là qu'il a prise d'exterminer le peuple juif. Or donc, quand on regarde le profil religieux de Mardochée et de sa fille Esther, on se rend compte que ce sont des observants juifs qui sont très loin d'être intransigeants. De fait, il n'y a rien dans leur comportement qui permet de les identifier comme étant des juifs, ce qui, en soi, est étonnant quand on considère que c'est un livre qui fait partie du canon des Saintes Écritures, où on insiste toujours sur un comportement religieux et l'observance de la loi mosaïque dans les moindres détails. Mais on a ici deux personnes qui le font de manière discrète. Et la troisième raison est que dans la version hébraïque, il n'y a dans ce livre aucune mention de Dieu. Il n'est jamais nommé par son nom. C'est donc un livre qui, d'une certaine manière, est très séculier. Et Dieu est là partout, mais il n'est jamais nommé. Alors, quand les Juifs lisent ce texte, ils lisent la version hébraïque plus courte, aucune allusion à Dieu, sinon au chapitre 4, verset 14, quand Mardochée dit à Esther, c'est les versets qui précèdent immédiatement le texte que nous avons entendu. Mardochée dit, si toi, tu refuses de faire recours au roi, eh bien, le secours viendra d'un autre lieu. Et là, d'un autre lieu, il est entendu que c'est Dieu dont elle parle ici. Le secours viendra d'ailleurs, il viendra de Dieu. Et donc, dans la version grecque, par contre, qui est beaucoup plus longue, on a ajouté des prières et là, dans ces sections-là, il y a des allusions directes au Dieu et à l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, comme on l'a entendu dans l'extrait que nous avons entendu ce matin en première lecture et qui est justement tiré de la portion grecque. Ce qu'on a ici, donc, c'est une prière d'Esther qui fait écho à celle de Mardochée qui a été offerte dans les versets précédents. Vous pourrez aller voir dans votre Bible plus tard aujourd'hui. Donc, le père et la fille offrent à Dieu une prière. Mardochée, pour que Dieu puisse convaincre Esther, sa fille, d'avoir recours auprès du roi. Et Esther, dans sa crainte et sa peur de le faire, fait une prière très longue, dont on entend juste un court extrait, une prière qui, dans son contenu, résume tout ce qu'est la prière pour nous les chrétiens, au niveau de la forme, parce qu'elle prend tour à tour la forme d'une prière de louange, d'intercession et d'action de grâce. Donc, tous les éléments d'une prière sont exprimés dans cette prière d'Esther, qui devient une inspiration pour notre prière pour chacun et chacune d'entre nous. Et comme on le disait hier, durant le temps du carême, il y a toujours un lien entre l'Évangile et la première lecture, et clairement, le passage de l'Évangile selon saint Matthieu porte sur la prière ce matin. Et donc, il y a trois parties à ce très court texte, mais la première est d'insister sur la persistance que nous devons avoir dans la prière. Et la raison pour laquelle il faut persister dans la prière, c'est que quand on persiste dans quelque chose qu'on n'a toujours pas, ça crée encore plus en nous le désir d'obtenir ce qu'on demande. S'il n'y a pas de persistance dans la prière, ça veut donc dire que ce qu'on demandait n'était peut-être pas ce dont nous avions besoin, parce qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'en a plus de besoin, on arrête de le demander. S'il y a de l'insistance et de la persistance dans la prière, ça crée en nous le désir et ça nourrit en nous ce désir d'obtenir ce que nous désirons, si c'est la volonté de Dieu. La deuxième partie de ce que Jésus dit, c'est que la prière, plus souvent qu'autrement, elle est faite non pas pour notre propre besoin personnel, qui vont changer justement, mais bien pour ceux d'autrui. Et quand on persiste dans la prière pour chercher le bien d'autrui, ce qu'on cherche, c'est vraiment leur bien, et non pas notre intérêt personnel. Ce qui amène à la troisième partie et qui est dénommée comme étant la règle d'or. Alors, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça a passé à l'histoire, cette affirmation de Jésus. Elle n'est pas vraiment nouvelle. On dit qu'il y a plusieurs textes de la Bible qui font allusion. On parle du livre de Tobie, je crois, l'Ecclésiaste aussi. Philon d'Alexandrie, un auteur païen de l'Antiquité, y fait aussi allusion. Mais les experts disent, tous ces auteurs et ces autres passages de l'Ancien Testament font la règle d'or à la négative. Alors, tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, faites-le pas pour eux. Mais là, ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Tout ce que les autres, vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est ça qui devient la prière chrétienne, qui devient une prière d'engagement pour le changement du monde, pour faire une différence. Donc, frères et sœurs, on peut voir le lien avec la première lecture tirée du livre d'Esther. Esther fait une prière au Seigneur parce qu'elle a peur, elle a des craintes, elle reconnaît le Dieu de ses ancêtres, elle est capable de reconnaître l'action de Dieu dans sa vie, Mais là, elle est à un tournant dans sa vie où elle devra agir. Et là, elle doit demander le courage de pouvoir agir. Frères et sœurs, je crois bien que nous vivons tous et toutes dans une situation semblable dans nos vies. Il faut apprendre donc à persister dans la prière, à demander ce qui est le meilleur pour nous, demander ce qui est le meilleur pour les autres, mais aussi à nous engager pour faire une différence et apporter notre contribution à mettre en œuvre ce que nous demandons dans la prière. Amen.